Nous nous trouvons au parc Geisendorf, qui était autrefois propriété d'une famille possédant une plantation au Suriname. Hans Fessler, dans votre dernier livre, vous êtes vous-même penché sur le sujet. Ces derniers temps, pas mal d'études ont été publiées aussi sur la place des Suisses dans l'esclavage. Mais est-ce qu'on sait exactement quelle était leur position sur le marché de l'esclavage?
Il faut différencier entre divers types de participation de la Suisse à l'esclavage. Il y avait des investisseurs dans les bateaux négriers, il y avait des propriétaires suisses des plantations, et ça veut dire aussi des propriétaires d'esclaves. Il y avait peu de Suisses qui faisaient la traite des esclaves en soi, mais il y avait beaucoup de Suisses qui faisaient la traite des denrées coloniales, ça veut dire qui faisaient le profit de la traite de coton, de sucre, de l'indigo, le bois du Brésil, les diamants, etc. Et il y avait aussi la participation suisse à la suppression des rébellions des esclaves. Alors il y avait une participation militaire au maintien de l'esclavage. Et finalement, c'est un chapitre que je crois qu'il faudrait encore approfondir. Il y avait une participation idéologique des Suisses à l'esclavage. Ça veut dire qu'il y avait des écrivains, des voyageurs, des philosophes qui publiaient des œuvres disant « l'esclavage, ce n'est pas un problème, ce n'est pas contradictoire à l'humanité, c'est une chose normale, raisonnable et qui ont aussi contribué au racisme anti-noir. »
Et est-ce qu'il y avait un profil spécifique des Suisses qui participaient à ce commerce?
Profil spécifique, non, je ne crois pas. C'est une diversité de profils. C'est le commerçant qui fait le commerce. Et très souvent, ce n'était pas seulement le commerce transatlantique, mais tous les commerçants, ils essayaient de minimiser les risques. Alors, ils faisaient beaucoup d'affaires. Et parmi ces affaires, il y avait la participation aux expéditions négrières. Il y avait la production des indiennes, les étoffes de coton imprimées qui étaient très importantes. Il y avait la production à Neuchâtel, à Genève, au canton de Glaris. On produisait ces étoffes qui étaient considérées comme l'argent de la traite. Ça veut dire en Afrique d'Ouest, on a échangé ces étoffes contre les esclaves.
Mais ces opérations étaient particulièrement aventureuses. Tous les bateaux n'en revenaient pas. Est-ce que le fait d'investir dans la traite, dans l'esclavage, avait un rendement plus important au niveau économique par rapport à d'autres investissements?
C'est une discussion parmi les historiens. On peut dire que les profits n'étaient pas tellement énormes qu'on a dit, mais on pouvait toujours faire un gros profit, c'était toujours possible, mais il y avait aussi des risques. Mais on a calculé que le profit moyen était environ de 4, 5 ou 6%, le taux de rentabilité, qui n'était pas mal à l'époque. Quelquefois, c'est un argument qu'on utilise pour dire que ce n'était pas tellement grave que les Suisses participaient, parce que les profits n'étaient pas énormes. Mais moi, je réponds toujours que pour les esclaves, ça ne faisait aucune différence si on avait de grands profits ou de petits profits.
Alors, on sait que des Suisses possédaient des esclaves dans leur plantation d'outre-Atlantique, mais est-ce qu'on sait s'il y a eu des esclaves en Suisse même?
Il y a quelques cas où les propriétaires, quand ils avaient fait fortune outre-mer, ils sont rentrés en Suisse et quelquefois ils ont emporté un esclave, un serviteur noir. Il y a le cas de Monsieur Demeurant de Neuchâtel qui est revenu de l'Afrique du Sud avec un serviteur noir. Il y avait le chevalier de Trétoran qui est revenu à Yverdon avec un esclave. Et ça posait des fois des problèmes légaux en Suisse, parce qu'on ne savait pas comment traiter ces gens en Suisse, parce qu'en Suisse, l'esclavage n'existait pas. Alors, il y avait des problèmes.
Justement, Hans Fetzler, l'exemple que vous citez semble montrer qu'il était pratiquement admis qu'un esclave soit dans cette condition, puisque je crois que c'est la municipalité d'Yverdon qui, dans un conflit, avait déclaré qu'il était normal que le maître puisse disposer de ses esclaves qu'il avait rapportés d'Amérique, au même titre que ses chevaux et son matériel domestique.
Oui, c'est naturellement en concordance avec l'état légal d'un esclave. Un esclave n'était pas considéré en tant qu'homme, mais c'était un meuble, comme disait le code noir. Et c'est intéressant, il y a des cas où les autorités suisses devaient se prononcer sur ce problème. Il y a un autre cas au XIXe siècle où les autorités fédérales suisses devaient se prononcer sur le fait qu'au Brésil, il y avait des Suisses qui possédaient des esclaves. Et la réponse du Conseil fédéral était que c'était pas possible d'interdire aux Suisses, au Brésil, d'avoir des esclaves, parce que ça voudrait dire qu'on aurait ruiné ces gens économiquement. Alors on a dit on ne peut pas les pénaliser.
Est-ce qu'en même temps cela allait avec les théories racistes qui avaient cours à l'époque? Est-ce que les deux se soutenaient? C'est un commerce soutenu par cette image dévalorisante des esclaves?
Oui, il y a deux courants intéressants. En même temps qu'on a développé l'esclavage, il fallait aussi développer la théorie de l'infériorité des Noirs. Parce qu'il faudrait rationaliser les choses. Et aussi, c'était une conséquence de l'esclavage qu'au XIXe siècle, on a commencé à développer les théories scientifiques, pas vraiment scientifiques, mais on les considérait scientifiques, de l'infériorité de la race noire, comme on disait à l'époque.
On sait qu'à l'époque, il y avait un peu une guerre ouverte entre protestants et catholiques. Alors justement, sur ces conceptions de l'esclavage, est-ce qu'il y avait une différence entre ces deux confessions?
Non, pas vraiment. Entre les confessions, naturellement, il faut voir que les premiers abolitionnistes étaient des groupes protestants, les Quakers en Amérique. Mais la différence n'est pas très grande entre les prises de position officielles des catholiques ou des protestants. En Suisse, on constate que c'était surtout les villes et les régions protestantes qui ont participé, mais pas pour des raisons religieuses, mais parce que le commerce était plus développé dans les villes protestantes comme Bâle, Neuchâtel, Genève. On pourrait parler de Max Weber qui a développé sa théorie que les pays protestants avaient plus la tendance de développer un capitalisme rationnel.
Et à partir de sa création, est-ce que la Confédération s'est prononcée sur le sujet ou à partir de quand s'est-elle prononcée?
J'ai mentionné ce cas, c'était dans les années 1860 où le Conseil fédéral devait se prononcer sur le cas des propriétaires d'esclaves au Brésil, mais c'est la seule fois que les autorités fédérales se sont prononcées sur ça. Il faut aussi dire que l'État, soit l'État au XVIIIe siècle, ça veut dire les cantons, les villes, ne jouaient pas un rôle très important dans la participation suisse, mais c'était des compagnies, des entreprises familiales, c'était des individus qui étaient impliqués. Et l'État, très rarement, il y a seulement le cas de Berne, le canton de Berne ou l'État de Berne de l'ancien régime qui avait investi très grossement dans une compagnie spéculative qui faisait la traite.
Malgré le fait que quelques études soient déjà sorties sur le sujet, il reste quand même encore peu connu. Alors comment vous en êtes arrivé vous-même à travailler dessus?
J'avais toujours répondu, quand on m'a posé cette question il y a quelques années, que c'était par hasard. Ça veut dire, j'étais en train de préparer un spectacle de cabaret pour le bicentenaire de mon canton de Saint-Gall. Et pendant les recherches pour ce programme de cabaret, je suis tombé sur l'histoire d'Haïti, qui était créée en même temps que le canton de Saint-Gall. Et après Haïti, c'était Toussaint Louverture, le grand libérateur des esclaves à Saint-Domingue, comme on appelait Haïti à l'époque. Et puis je suis tombé sur des sources qui prouvaient qu'il y avait des familles saint-galloises qui possédaient des esclaves. Et pour moi, c'était une chose tout à fait nouvelle. Je ne savais rien de ça et j'ai commencé à consulter d'autres historiens. Est-ce que vous avez déjà lu ou entendu du fait qu'il y avait une participation suisse? Et même des historiens de gauche, ils disaient non, on ne sait rien. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches. Et naturellement, j'ai réalisé après ça qu'il y avait d'autres chercheurs à Bâle qui faisaient des recherches sur les Burckhardts. Il y avait des gens à Lausanne, à Genève, et lentement on a commencé à se rencontrer, à s'organiser, et puis les trois livres ont été publiés, un livre sur Bâle, un livre des trois chercheurs romands et le mien.
Et le monde universitaire et des musées en Suisse, comment réagit-il? Il y a eu une exposition à Genève, Mémoire d'esclaves, par le musée d'ethnographie il y a 10 ans. Est-ce que c'est une initiative isolée ou est-ce que cette histoire commence à être présentée au public?
Je crois que dans le cas des musées, c'est encore très rare. Dans le cas des universités, on réalise qu'il y a des colloques, qu'il y a des séminaires. Il y a 2 semaines, j'étais à Zurich pour une conférence sur le sujet dans le cadre d'un séminaire d'une professeure qui a organisé ce séminaire sur l'esclavage. Alors je commence à réaliser qu'il y a un changement, mais dans les musées, officiellement, c'est encore très rare.
Alors vous vous trouvez aujourd'hui dans le parc Geisendorf, qui était auparavant ce que l'on appelait la Villa Surinam, du nom d'une propriété qui avait été donc donnée ensuite à la ville par ces personnes qui avaient exploité des terrains en Amérique du Sud.
Oui, c'était au Surinam. Il y avait 5 colonies au littoral nord de l'Amérique du Sud. C'était Essequibo, Demerara, Suriname, et Guyana et Berbis. Et c'était des colonies soit hollandaises, soit françaises et après aussi anglaises. Et surtout au Suriname, il y avait une grande concentration de propriétaires suisses, propriétaires de plantations et propriétaires d'esclaves. Et pour moi, c'est un peu drôle, un peu amusant que moi, en tant que Saint-Gallois, je suis venu à Genève pour expliquer aux Genevois d'où le chemin Surinam a son nom. Mais c'est un de ces hasards que j'ai réalisé ne sont pas vraiment des hasards, parce que j'ai l'impression que les recherches ont commencé à développer une masse critique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a des gens qui font des communications, et pour moi c'est un honneur aussi de venir ici et de parler un peu de ce chemin que j'ai pris comme photographe pour un chapitre de mon livre. Et je crois aussi que Jean-Zachary Robin, c'est le nom du propriétaire des esclaves qui est revenu ici à Genève, serait aussi quelque chose à étudier, quelque chose à faire une étude pour des historiens qui s'intéressent à ce sujet.
Lors d'une autre enquête, Arthur de Pury nous avait déclaré qu'une grande partie des monuments de la fortune de Neuchâtel venait justement de ce commerce des esclaves. Mais il semblerait que pour les historiens qui font des recherches, l'accès aux archives ne soit pas toujours facilité. Est-ce exact?
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours appelé Neuchâtel le Liverpool de la Suisse, parce que la ville de Liverpool, en Grande-Bretagne, c'est peut-être la plus grande concentration de richesses, de fortunes qui sont basées sur l'exploitation des esclaves. Et c'est la même chose à Neuchâtel, c'est une grande densité et concentration de familles, de commerces, de propriétés qui sont basées sur ce commerce. Et moi-même, j'avais des problèmes avec les archives, par exemple, de la famille de Pourtalès. On appelait M. Pourtalès le roi de Neuchâtel parce qu'il contrôlait pratiquement la vie économique de la ville. Il était un grand producteur d'indiennes, de ces étoffes qui étaient l'argent de la traite. Et quand j'ai soumis ma lettre de permission d'utiliser les archives, j'ai eu la réponse de l'ayant droit que ce n'était pas possible.
Justement, à Nantes, par exemple, le travail de mémoire, c'est fait plus ou moins facilement. Enfin, aujourd'hui, on en parle sans tabou. Comment ça s'explique qu'en Suisse, ce soit quelque chose de plus difficile? On l'a vu, par exemple, aussi avec l'affaire des fonds en déshérence. Les gens n'ont pas très envie de se souvenir de ce genre de fait.
Je crois qu'il faut ajouter que même en France, même en Angleterre, ce n'était pas toujours facile. On réalise aujourd'hui qu'à Nantes, on va construire un monument, un lieu de mémoire. À Bordeaux, il y a des recherches, etc. Mais c'était aussi un procès très, très dur pour les chercheurs. Et ça date pas très longtemps qu'on ne voulait pas parler de ça. Je crois que la période importante, soit pour Liverpool, soit pour Nantes, Bordeaux, c'était les années 90 du XXe siècle. Et je crois pour Suisse, je ne crois pas que c'est plus dur, mais je crois que c'est encore un sujet nouveau. Il faut un peu de temps pour développer ces études, ces recherches et ces lieux de mémoire.
À ce sujet, il est souvent question, bien sûr, s'il y a reconnaissance, qu'il pourrait y avoir lieu à indemnisation. Et est-ce que c'est ce problème économique qui représente aussi une entrave à la reconnaissance?
Je crois que la possibilité ou les chances de vraiment faire un litige sur les réparations en Suisse ne sont pas grands. C'est pas la même chose comme avec les fonds juifs, etc. Mais personnellement, moi, je suis convaincu qu'un jour, il faudra une sorte de réparation pour cette grosse injustice historique. Mais je ne crois pas que ce sera une question des tribunaux, une chose des litiges légaux. Je crois que ce sera une chose d'un procès social qui va reconnaître ces injustices et trouver des moyens d'indemniser.
Alors aujourd'hui, on assiste à des nouvelles formes d'esclavage qu'on appelle assez pudiquement du travail forcé. Donc qu'est-ce qui explique que d'un côté, on reconnaisse l'esclavage comme un crime contre l'humanité, l'esclavage qui a été pratiqué avant, et que d'un autre côté, on ferme un peu les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ferment les yeux, mais moi, je ne le fais pas. Je réalise tout à fait que c'est un problème qui existe. Pendant les recherches sur mon livre, j'ai aussi lu un livre qui s'appelle Disposable People par un sociologue anglais, Kevin Bales, qui a constaté qu'il existe environ 20 millions de personnes, de gens aujourd'hui dans le monde qui travaillent dans les conditions quasi esclavagistes. Et il faut faire les deux choses. Il faut réaliser qu'une grande partie des richesses de l'Europe sont basées sur l'esclavage classique du XVIIIe siècle, XIXe siècle, mais il faut aussi constater qu'aujourd'hui, il existe des conditions semblables, comme le travail forcé. Il faut lutter contre ça aussi.
Et au niveau des gouvernements, justement, est-ce que vous pensez qu'on a toujours besoin d'un peu de recul pour se rendre compte de la gravité de la situation, notamment sur ces nouvelles formes d'esclavage?
Oui, il faut du temps, mais il y a aussi des initiatives. Il y a un groupe en Angleterre qui est très actif, c'est un groupe autour de cet auteur dont j'ai parlé, Kevin Bales, une organisation qui s'occupe des des enfants qui travaillent dans des plantations de l'huile des palmiers en Afrique d'Ouest, etc. Et moi, je dis toujours, il faut les voir, il faut voir les choses ensemble. Et il y a quelquefois, il y a des gens qui disent, ah, vous, monsieur, vous vous occupez des choses du 18e siècle. Ne faudrait-il pas se confronter aux choses qui se développent aujourd'hui? Et moi, je réponds toujours, il faut faire la combinaison. Et c'est très intéressant que les gens qui m'accusent d'aller dans les archives au lieu d'aller en Afrique dans des projets d'aujourd'hui, c'est normalement des gens qui ne font ni l'un ni l'autre. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens d'Haïti, du Sénégal, qui sont engagés dans des projets d'aujourd'hui. Et j'ai jamais eu cet argument de la part de ces gens qui, pour eux, c'est toujours le même travail, le travail de mémoire et le travail aujourd'hui dans les projets d'entraide dans le tiers-monde.
Alors vous faites ce travail de mémoire, mais sur les deux plans, c'est-à-dire d'un côté sur l'esclavagisme, mais en même temps vous rappelez qui étaient les auteurs des thèses racistes. Qu'en est-il donc d'Agassiz, le fameux glaciologue, dont vous voulez montrer aussi qu'il avait plutôt une face noire, celle qui propageait des thèses racistes?
Oui, j'ai écrit un chapitre dans mon livre sur Louis Agassiz, que tout le monde connaît en tant que glaciologue, géologue, naturaliste. Il faisait la recherche des poissons pétrifiés et on peut même dire qu'il était si fameux qu'on pourrait le nommer l'Einstein du 19e siècle. Mais peu de personnes savent qu'il était aussi un propagandiste des idées racistes. Quand il est arrivé aux États-Unis, d'un jour à l'autre, il s'est changé de la théorie de la monogénèse, de la race humaine, à la polygénèse, parce que vis-à-vis des Noirs, il a dit « c'est pas possible que ces Noirs sont de la même race humaine que nous, les Blancs ». Et il a commencé à faire la propagande pour ses théories. Il s'est associé avec des craniologues, des gens qui ont mesuré les cerveaux des Noirs et des Blancs et ont fait des statistiques. On sait aujourd'hui qu'ils ont falsifié ces statistiques, mais le résultat qu'ils voulaient avoir, c'était que les Noirs avec un cerveau plus léger que les Blancs, alors par conséquent, ils n'étaient pas cultivés, c'était pas possible de les cultiver.
Alors vous avez proposé que le Agassiz Horn soit débaptisé, qu'on donne à cette montagne le nom d'un des Noirs dont le physique avait servi à prouver, selon Agassiz, que bien sûr ils étaient inférieurs. Est-ce que c'est en même temps pour frapper l'opinion publique que vous demandez le changement de nom de cette montagne? Est-ce que vous pensez que ce serait un certain type de réparation si cela a été effectué?
Oui, il faut réaliser que ces lieux de mémoire, une montagne qui porte le nom d'un raciste est aussi un type de lieu de mémoire. Et les conflits et les débats autour de ces choses produisent toujours des réactions, produisent des procès de prise de conscience. Et je suis vraiment convaincu qu'il faudrait prendre le nom de Agassiz Horn et le remplacer par exemple, c'est une proposition que j'ai faite, par le nom d'un de ses esclaves, par exemple Rentry. Il y a une douzaine de daguerreotypies qui existent. Et c'est aussi un peu ironique que les photographies, les premières photographies des esclaves qui existent étaient produites par Agassiz et son photographe pour prouver l'infériorité de la race noire. Et aujourd'hui, on a ces daguerreotypies très impressionnantes. Ce sont des portraits des esclaves sur une plantation de la Caroline du Sud. Et j'espère qu'avec cette initiative de débaptiser l'Agassiz Horn, je vais créer un peu de conscience pour ces problèmes.
Alors vous avez vu que le nouveau musée qui a été ouvert à Paris pour les arts primitifs est maintenant a pris une démarche totalement esthétique pour ne plus considérer la partie, le sens ethnographique, ce qui est une sorte finalement de un moyen de se cacher à soi-même notre activité à cette époque. Est-ce que vous pensez donc que cette action est celle de cacher quelque chose plutôt et celle de renommer la montagne est un acte plus courageux?
J'ai déjà une fois fait un essai de rébaptiser quelque chose. Dans ce cas, c'était une rue à Saint-Gall qui s'appelle encore aujourd'hui Krugerstraße. Elle était nommée selon un des importants hommes de l'apartheid, Kruger, aux Afriques du Sud. Et on a proposé de rébaptiser cette rue rue Mandela. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de débats à Saint-Gall. Et j'espère que la même chose va se développer avec le Agassiz Horn. Il faut réaliser peut-être à Neuchâtel, c'était Agassiz qui était le quasi-fondateur du musée de l'histoire naturelle. Et on trouve son buste à l'entrée. On trouve une grande exposition sur le grand glaciologue suisse. Mais pratiquement pas un mot sur le raciste.
Et donc, puisque nous sommes dans le parc Geisendorf, vous pensez qu'il serait utile de rappeler d'une manière quelconque quelle est l'origine de cette propriété?
Oui. Dans les rues, on constate que si une rue est nommée d'après un homme, il y a toujours cette plaque explicative qui explique qui était cet homme, ses dates de biographie. Et je crois que ce n'était pas de problème de se dire oui, dans quelques cas, c'est utile d'ajouter des informations sur l'origine du nom. Alors, je crois que techniquement et financièrement, ce n'était pas un problème de mettre une petite plaque, d'expliquer que le nom rue. Chemin Suriname, à l'origine dans une plantation au Suriname avec des esclaves.
Et comment vos recherches sont-elles reçues en dehors du milieu académique? Est-ce que vous pensez que la population, en général, est prête à faire cet examen historique?
Oui, pour moi, c'était une grande surprise quand j'ai commencé avec mes recherches et quand j'ai commencé à publier ces recherches. Je ne savais vraiment pas comment les gens allaient réagir. Moi, j'avais l'expérience des années 80, pendant la guerre froide. On savait toujours, quand on va lancer une campagne un peu provocative, que les réactions seraient très, très dures et très agressives. Mais cette fois, j'ai réalisé qu'il y avait une certaine ouverture en Suisse. Je crois aussi comme résultat des débats sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de la Suisse avec les réfugiés, les comptes juifs, etc. Je crois que ça a créé une certaine disposition de s'occuper de nouvelles questions. Je crois que dans les années 80-90, ça ne serait pas été possible dans le même degré qu'aujourd'hui.
Et comment cela se passe-t-il dans les pays étrangers, notamment la France, l'Angleterre et les Pays-Bas, et aussi l'Espagne, qui furent parmi les pays qui ont largement bénéficié de l'esclavage?
Je crois dans les grandes puissances coloniales et esclavagistes, il y a une double tendance, naturellement parce que leur passé est énormément plus grand que le nôtre. Il y a aussi beaucoup plus de chercheurs parce qu'il y a plus de matériel, plus de familles, plus d'activités esclavagistes. Et en même temps, l'État, qui naturellement était impliqué à son tour plus qu'en Suisse, où l'État ne jouait pas un gros rôle, l'État est très très prudent de faire des prononciations. Par exemple, en Angleterre, on a vu une déclaration du Premier ministre Tony Blair sur le bicentenaire de l'abolition de la traite. Mais quand on voit le texte, on réalise qu'on a vraiment étudier chaque mot pour éviter des conséquences juridiques, ça veut dire des demandes de réparation. Alors en France, en Grande-Bretagne, c'est un procès très difficile, Et moi, j'ai aussi créé une petite initiative où j'ai proposé de faire une initiative des petits pays esclavagistes. J'appelle la Suisse, le Danemark, la Suède, la Prussie, Brandebourg, des petits nations esclavagistes. Et je crois que pour eux, ce serait une chance de dire on n'a pas un passé tellement lourd comme la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal. Alors ce serait un peu plus facile de faire une initiative envers les grandes puissances coloniales.
Et peut-être avoir aussi une journée de commémoration en Suisse.
Pourquoi pas, ouais.
Merci, Hans Wessler.